impressionnant Marlon Clark qui nous chante Félix Navidad, joyeux Noël, hein, pour rester dans ce bain et dans cette célébration, dans cette joie d'apporter le bonheur à tous les enfants de ce monde et particulièrement de la Côte d'Ivoire et ceux qui vivent dans des pouponnières ou des orphelinats. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous en ce jour, journée internationale de la solidarité humaine. À 7h, vous aurez droit au journal, elle est déjà installée. Christelle Yesso est là pour le 7h. Bonjour Christelle.
Bonjour Gisley.
Ça va bien ?
Ça va bien.
Vous avez le punch ?
Ouais, ça va.
Alors on vous laisse pour le 7h.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h. Christelle Yesso.
Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette édition. L'élection du nouveau président du PDCI aura lieu le vendredi 22 décembre à Yamoussoukro, ainsi en a décidé son bureau politique d'hier. Clôture de la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire se réjouit de l'affluence suscitée par le thème de cette édition. Jour d'élection en RDC, plus de 44 millions d'électeurs attendus aux urnes ce jour. Et en invité de la rédaction, Constant Maïli a joint pour vous Efeniston Betty, le porte-parole de la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé sur les 120 milliards de frais de scolarité que leur doit l'État. Plus de détails au cours de cette édition. Le parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé la tenue de son 8e congrès extraordinaire, sanctionné par l'élection de son nouveau président pour le vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. L'information a été rendue publique par Alain Cocotré au terme du bureau politique tenu hier au siège du PDCI. On l'écoute.
Au terme des échanges, le bureau politique a apprécié avec enthousiasme la proposition de la tenue du 8e congrès extraordinaire au lieu et à la date indiquée par le président du parti. Au cours des échanges, le président a donné la possibilité à tous les candidats de s'exprimer. Ils ont tous affirmé leur volonté de voir le congrès se tenir dans un climat apaisé. Pour conclure, il faut noter que 3 candidats ont confirmé le retrait de leur candidature devant le bureau politique. Il s'agit de 1. Le professeur Maurice Kakoudjikaoué. 2. Le ministre Koumouin Kofi Moïse. Et 3. Monsieur Noël Akossi Benjo. Le bureau politique a clos ses travaux sur une note de satisfaction générale et donne rendez-vous à tous les congressistes à Yamoussoukro le vendredi 22 décembre 2023 à 10h.
Alain Cocotré a par ailleurs indiqué que le bureau politique a donné son quitus pour l'examen de la levée des sanctions contre les militants indisciplinés et son accord pour l'examen de la reprise des activités du Conseil de discipline. Et du côté du Sénat, une séance plénière de délibération portant sur 5 projets de loi s'est tenue le lundi 18 décembre à Yamoussoukro. Des projets de loi tous adoptés par les 96 sénateurs présents sur les 97 que compte l'institution. La présidente Kandia Kamisoko Kamara a au terme des travaux exprimé sa satisfaction et plaidé pour le relèvement du budget des collectivités territoriales. On l'écoute au micro d'Emile Yao.
Après les travaux en commission, nous nous sommes réunis pour procéder au vote. Et les sénateurs, à l'unanimité, ont voté les 5 projets de loi. À travers ce vote, notre institution donne son quitus au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social pour le bonheur des populations. Je voudrais faire remarquer que le budget de l'État de Côte d'Ivoire est en hausse de 17%. ce que nous saluons au niveau du Sénat, parce que nous sommes convaincus qu'avec ce budget, les préoccupations de nos populations seront prises en compte. Et nous voudrons féliciter et adresser toutes nos admirations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce que nous souhaitons au niveau du Sénat, c'est le relèvement des budgets des collectivités territoriales, car nous pensons que cela va permettre justement aux élus locaux de prendre en charge les préoccupations de leur population, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de rendre les Ivoiriens encore plus heureux. Donc nous sommes très heureux au niveau du Sénat d'avoir pu voter à l'unanimité ce budget 2024 de l'État de Côte d'Ivoire.
Vous venez d'écouter Candia Camara, présidente du Sénat. Et pour parler formation dans ce journal, le deuxième atelier du projet plateforme e-Policy s'est tenu les 14 et 15 décembre à Abidjan. Organisé par l'UNESCO et en partenariat avec Code Africa, cet atelier international s'est intéressé à la problématique de la faible utilisation du conseil scientifique dans la fabrique des politiques publiques en Afrique. Didier Blé.
Les experts réunis au sein de ce projet novateur veulent mieux utiliser les sciences sociales pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en Afrique. Madiane Diallo, porteur principal du projet et fondateur de la plateforme Code Africa.
Nous avons mis cette plateforme qui a deux couches. Elle est formée par des experts qui sont les producteurs de connaissances scientifiques. La deuxième couche, c'est la couche qui manque à l'Afrique. Un collège d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens dirigeants d'agences de développement et de banques de développement.
Il est important d'emmener toutes les connaissances africaines à regrouper leurs énergies et le faire ensemble et en même temps créer une plus-value. Mame Omar Diop, représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire.
On a des institutions qui sont en place, mais on se rend compte que nous tous, on parle des mêmes défis avec des solutions des fois différentes. Nous pensons que la plus-value, ça va être qu'ils parlent ensemble, qu'ils échangent ensemble sur des solutions holistiques pour adresser les mêmes problèmes afin d'avoir beaucoup plus d'efficience et d'impact.
Des solutions holistiques pour être plus efficaces en amont comme en aval, d'où les attentes du professeur Pierre Kiprié, participant et point focal Côte d'Ivoire.
Nos attentes sont nombreuses. Arriver à avoir un format de policy brief qui puisse être présenté et présentable aussi aux gouvernants comme aux chercheurs.
Créée en 2022, la plateforme e-Policy regroupe un peu plus de 1500 experts issus de 25 pays d'Afrique et de la diaspora, composés d'anciens ministres, d'experts de finances et de scientifiques.
Et tout à fait autre chose dans ce journal, la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, plateforme de rencontre biennale des architectes, des urbanistes, d'aménageurs et des acteurs du développement urbain, a pris fin le samedi 16 décembre au parc d'exposition d'Abidjan. Une 9e édition qui a enregistré une forte présence du public et mis en avant un thème de plus actuel, selon Amon Joseph, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons, joint par Aoussi Potin.
Alors la toute première, c'est l'attention et l'engouement du public envers le thème qui a été choisi cette année, à savoir architecture durable et industrie locale. On a vu un fort engouement du public qui est venu nombreux, assister aussi bien aux différents panels et visiter les différents stands de pavillons qui ont été réalisés. On visait 30 000 visiteurs durant les 5 jours d'exposition. Les derniers chiffres nous disaient qu'on avait atteint cet objectif.
Alors, le thème donc de cette édition 2023 était le suivant, architecture durable et industrie locale. Pourquoi le choix de ce thème? Quels étaient vos objectifs en tant qu'organisateur?
Alors, on tombe pile dans l'actualité présente parce que le problème de la préservation de notre planète est aujourd'hui sur la table de tous les gouvernements. La planète est en danger. Si on n'y fait rien, on risque d'aller vers une catastrophe à très court terme. Et il était temps pour nous, en tant qu'architectes, de nous pencher véritablement sur ce sujet. En tant qu'acteurs au développement, donc acteurs étant amenés à faire des propositions au niveau des compositions architecturales, de modes de réalisation, des principes constructifs et autres, et dans les choix des matériaux qui se rapportent à nos différents projets.
C'était Amon Joseph, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Direction à présent la ville de Daloa, où le ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a organisé une cérémonie de valorisation des acquis et de partage d'expériences des bénéficiaires des filets sociaux couplée au lancement officiel des paiements des 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme Filet socio-productif. Une occasion pour la ministre Belmondo-Gho et le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, de mieux expliquer et présenter aux populations ce programme social du gouvernement. Compte rendu, Jean-Noël Kouamé.
Pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo-Gho, il s'agit de renforcer l'action sociale du gouvernement et favoriser le développement en Côte d'Ivoire.
Cette année 2023, 100 000 nouveaux ménages ont été ciblés dans 14 régions. Et pour la région du Haut-Sassandra, nous avons enregistré 13 293 nouveaux ménages, la création de 112 associations de valorisation de l'emploi. Le président de la République et le premier ministre en appellent à consolider les leviers d'une Côte d'Ivoire solidaire où les citoyens voient leurs conditions de vie s'améliorer et bâtissent la cohésion nationale.
Après un défilé des bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a également salué cette action sociale et solidaire du président de la République.
Lorsque le président Sassou Ouattara nous a fait, la pauvreté dans notre pays avait atteint 31%. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale, cette pauvreté a baissé. Nous sommes autour de 39%. Ces personnes qui sont ici, les ressources reçues ont permis de transformer leur vie. C'est le visage humain de l'action sociale du chef de l'État.
Le gouvernement ivoirien envisage, dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux, la prise en compte de 300 000 ménages bénéficiaires sur la période 2023-2025. Jean-Noël Kouamé, d'Aloha, Radio de la Paix.
Et hors de nos frontières, ce mercredi 20 décembre, se tiennent les élections générales en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession. Pour la présidentielle, 18 candidats lui font face, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ou encore le docteur Denis Mukwege. 44 millions d'électeurs se rendront aux urnes sur les 100 millions d'habitants. Cependant, 1 million de Congolais ne pourront pas se rendre aux urnes selon la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour des raisons sécuritaires. Et à présent, place à la revue des titres de vos journaux et c'est avec Jean-Mélène Bitti qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Le bureau politique du PDCI RDA, la clôture de la deuxième session parlementaire du Sénat ivoirien, le bilan du service civique, ce fait divers avec le viol d'une mineure de 14 ans à Bondoukou sont les points clés de cette revue des titres en Côte d'Ivoire. 4 jours après l'annulation de son 8e congrès électif, le PDCI RDA s'est réuni hier lors d'un bureau politique à son siège. À ce propos, Fraternité Matin annonce PDCI RDA, congrès extraordinaire, rendez-vous vendredi à Yamoussoukro, Dikaoui se retire officiellement. Sur le même sujet, le jour plus n'est pas du tout tendre avec le président intérimaire. Il met en manchette PDCI RDA, humilié, corrompu et ses lieutenants mettent de l'eau dans leur vin. L'avenir de son côté fait savoir que le PDCI RDA, après la réunion du bureau politique, le parti toujours divisé. Contrairement à l'avenir, le nouveau réveil journal proche du PDCI lui voit plutôt le renforcement de l'unité, la cohésion et la détermination lors de ce 17e bureau politique du PDCI après la suspension de son congrès du samedi. À dernière heure monde de mettre en une, 17e bureau politique du PDCI RDA, de grandes décisions prises hier. Après le rendez-vous manqué du 16 décembre, le PDCI reprogramme son congrès pour ce vendredi à Yamoussoukro, annonce l'Inter. Refermant la page PDCI avec Soir Info qui lui barre à sa une, après l'empêchement de son congrès samedi dernier, le PDCI veut élire son nouveau président à Yamoussoukro vendredi. Intéressons-nous à la fin de la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire du Sénat ivoirien, dont les rideaux se sont refermés hier mardi. Le journal gouvernemental Fraternité Matin ouvre le bal en titrant « Sénat clôture deuxième session, Kandia Camara, premier bilan parlementaire ». Le jour plus lui revient sur le message de la présidente du Sénat aux éléphants lors de cette session qui dit, et je cite, « Barrissez plus fort à la canne pour que l'Afrique vous entende ». Clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat pour l'année 2023. Depuis Yamoussoukro, Kandia Camara lance un appel aux Ivoiriens et aux acteurs politiques nous disent de leur côté l'Inter et Soir Info. Clôture de la session du Sénat, Kandia Camara magnifie le président Ouattara et lance des appels forts aux sénateurs et aux Ivoiriens, renchérit le rassemblement. Refermons ce chapitre avec Le Matin qui revient sur les propos de Kandia Camara. Lors de la clôture de session, elle affirme que le Sénat est à la tâche et au service des Ivoiriens. Autre point au menu de cette revue des titres, le bilan du service civique 2023. Sur ce sujet, Le Matin met en titre « Service civique 2023 ». Mamadou Touré annonce 2300 jeunes formés pour plus d'un milliard de francs CFA dans le cadre de l'année de la jeunesse. 1300 jeunes vulnérables formés et transformés en 2023. 300 stagiaires ont reçu hier leur attestation à Bembresso, annonce l'Avenir. Année de la jeunesse, bilan 2023, l'expression fait savoir de son côté que 1300 jeunes ont été resocialisés. Et puis terminons cette revue des titres avec ce fait divers macabre qui s'est déroulé dans la ville de Bondoukou. Et c'est Soir Info qui fait la lumière sur ce viol d'une élève de 14 ans qui, une fois maîtrisée par des vigiles, a été violée à tour de rôle par ces derniers. Voici l'essentiel des titres des journaux parus ce 20 décembre en Côte d'Ivoire. Merci à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Merci Jean-Mélène Bitti pour la revue de titres de nos journaux nationaux. On vous retrouve à 8h pour la revue de presse. Comme annoncé en titre, nous recevons ce matin en invité de la rédaction le porte-parole de la FENEPLACI, la Fédération Nationale des Établissements Privés Laïcs de Côte d'Ivoire, Efenistan Betty. Avec lui, nous parlons des 120 milliards de frais de scolarité qu'il dit leur devoir l'État de Côte d'Ivoire et de la menace d'arrêt des cours de la Fédération prévue pour le mois de janvier si rien n'est fait. Efenistan Betty répond à ce sujet aux questions de Constant Maïli.
Efenistan Betty, porte-parole de la FENEPLACI, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de la FENEPLACI, quel est votre problème aujourd'hui?
Nous sommes devant des impayés de l'année scolaire 2022-2023. Et à cela s'ajoute les passifs depuis 2020, qui courent de jusqu'à 26 milliards à peu près. Le général comme au niveau du technique. Et à côté de ces impayés-là, nous sommes confrontés aussi à la pression de la CNPS, des impôts, devant lesquels certains établissements sont menacés de fermeture, alors que l'État reste nous devoir ces sommes qui gênent considérablement notre fonctionnement.
À qui vous êtes adressé pour régler ce problème?
Nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention de nos autorités par des courriers et même par des rencontres personnelles. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'avancée notable. Et c'est ce qui donc a amené le Bureau fédéral à convoquer l'ensemble des établissements membres de la FENEPLACI à cette Assemblée générale qui s'est le mercredi 13 décembre dernier.
Qu'est-ce que cette Assemblée générale a décidé?
D'abord, ils ont donné mandat au Bureau fédéral de poursuivre toutes les démarches idoines afin de pouvoir avoir une satisfaction de toutes ces difficultés que nous présentons. Et à l'issue de ces démarches, donc, s'il n'y a pas de satisfaction, parce qu'aujourd'hui, ce que nous revendiquons, c'est l'apurement des 120 milliards qui représentent l'entièreté de la scolarité 2022-2023. Et nous sommes au premier trimestre de l'année 2023-2024. Alors, comment pouvons-nous expliquer que, ayant achevé la totalité de cette année 22-23, il nous reste encore en souffrance ces frais de scolarité-là qui représentent 120 milliards pour l'enseignement général et au niveau de l'enseignement technique et professionnel, que nous avons 8 milliards d'impayés au titre de l'année scolaire 2022-2023 et 4 milliards au titre de l'enseignement professionnel. Donc, devant ces difficultés-là, l'Assemblée générale a donné mandat, comme je l'ai dit, au Bureau fédéral de mener les démarches, faute de quoi, jusqu'au 31 décembre 2023. Si nous n'avons pas la satisfaction de tous ces problèmes-là, nous serons dans l'obligation, malgré nous-mêmes, à nos corps défendants, de marquer un arrêt parce que nous serons en cessation de paiement à partir du 31 décembre. Nous ne serons plus à mesure d'assurer la formation de nos enfants à partir du 8 janvier 2024.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on arrive à cette grève, à ce débrayage, à cet arrêt de travail le 8 janvier?
Bon, notre souhait est que nos autorités au haut niveau soient interpellés et qu'ils prennent à bras le corps ce problème. Parce que les établissements privés, c'est pas facile de fonctionner toute l'année, 9 mois, 12 mois, sans avoir un paiement, c'est vraiment difficile. Donc la seule solution aujourd'hui pour éviter ce débrayage le 8 janvier, qui n'est pas décidé de gâter de cœur, mais on serait contraint d'arriver là. Puisque si nous n'avons pas les moyens pour pouvoir payer le salaire, on ne pourra pas assurer la formation qu'il faut. Donc la solution est que, au plus haut niveau, que les autorités compétentes puissent prendre prendre à bras le corps ce problème et qu'il y ait un paiement avant le 31 décembre pour nous permettre de faire face à nos charges salariales. C'est la seule solution que nous voyons.
Est-ce que déjà il y a eu un précédent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on vous a déjà dû une somme pareille? 120 milliards enseignement général, 8 milliards enseignement technique et 4 autres milliards. Est-ce qu'il y a un précédent en Côte d'Ivoire?
Il y a un précédent, effectivement, puisque il y a ce gap, il y a ce déséquilibre entre le budget alloué et les élèves affectés dans nos établissements. Et nous n'avons fait que attirer l'attention des autorités. À plusieurs reprises, au temps du Premier ministre Kabila Duncan, il y a eu une série de travail avec les fêtiers, de sorte à pouvoir parvenir à un équilibre entre les élèves affectés et le budget alloué. Malheureusement, d'année en année, le déséquilibre ne fait que s'accroître. Et voilà la difficulté. Ce n'est pas la première fois, puisque comment on peut comprendre que nous sommes à l'année scolaire 2023-2024, pour laquelle nous venons d'achever le premier trimestre, et que nous sommes encore à parler de scolarité à payer sur l'année scolaire 2022-2023, une année déjà achevée, pour laquelle le travail a été fait. Et devant ces difficultés, ce qui nous écœure, c'est la pression que nous subissons de la part des impôts et de la CNPS. Bon, l'État ne peut pas nous devoir autant d'argent et menacer les fondateurs, les pourvoyeurs d'emploi comme de moins que rien. Que ce soit au niveau des impôts, de la CNPS, nous ne refusons pas de faire face à nos obligations fiscales. Mais il faudrait quand même tenir compte aussi des difficultés de trésorerie que nous avons dû au fait que l'État ne paye pas à temps, à la bonne date, sa dette aussi.
Face à cette situation, est-ce que vous avez eu à rencontrer votre ministère de tutelle?
Bien, je pense qu'à ce niveau, les démarches sont en cours pour que nous puissions les rencontrer, mais il n'y a pas encore eu de rencontre formelle en tant que telle. Mais en tout état de cause, quand il y a une situation pareille, nous adressons des courriers et nous pensons que nécessairement les rencontres pourraient éventuellement avoir lieu.
Nous espérons que la rencontre ait lieu. Vous essayez de désamorcer cette bombe.
Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, le privé, c'est pas moins de 70%. Donc, quand on a un poids de ce genre, c'est ça ce que nous ne comprenons pas. Parce que quand tu dis que quelqu'un est important à tes yeux, mais tu le traites avec un minimum d'égards. Mais nous ne sentons pas ça.
Efenistan Betty, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous aussi.
Et voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Élection du nouveau président du PDCI aura bel et bien lieu le vendredi 22 décembre à Yamoussoukro. Ainsi, on a décidé son bureau politique hier. Clôture de la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat. Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire se réjouit de l'affluence suscitée par le thème de cette édition. Et jour d'élection en RDC, plus de 44 millions d'électeurs attendus aux urnes ce jour. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous à 8h pour un nouveau journal.